Voix nue, Caroline Brouet cette semaine avec...
François Crémieux, directeur d'hôpital, marseillais depuis peu, parisien pendant longtemps et avec quelques voyages ces dernières années.
Deuxième épisode, dans les Balkans. Bonsoir ou bonjour François Crémieux.
Bonsoir et bonjour.
Nous nous sommes quittés hier à l'aube de votre 25 ou 26e anniversaire en 1994, au moment où vous partez faire votre service militaire. Je dis partez parce que vous êtes parti en ex-Yougoslavie à un moment où la guerre faisait rage, peut-être faut-il rappeler le contexte. Vous avez passé 6 mois en Bosnie. Comment vous êtes-vous retrouvé là-bas et surtout pour quelles raisons ?
La première question est plus facile que la deuxième. Comment est-ce que je me suis retrouvé là-bas ? Je me suis retrouvé là-bas parce qu'effectivement, je faisais mon service militaire et qu'il se trouve que le régiment d'infanterie dans lequel j'étais devait constituer une compagnie pour rejoindre un bataillon d'infanterie, constituer un bataillon d'infanterie dans la poche de Bihać, qui était une des zones de sécurité dont on entendait beaucoup parler à l'époque, avec Goražde, Zepa, Sarajevo. Et donc, les Nations Unies avaient organisé ces poches dites de sécurité qui étaient protégées par les Nations Unies. Et donc, le régiment d'infanterie dans lequel j'étais devait constituer cette compagnie, a donc fait un appel à volontariat. Et je me suis déclaré volontaire et me suis effectivement retrouvé comme soldat dans une compagnie de combat, à la fois conducteur d'un blindé et voilà, avec un petit groupe dirigé par un sergent qui était donc mon chef. Ça c'est le comment, le pourquoi et je sais pas s'il est plus compliqué, le pourquoi et un peu le hasard des un peu des rencontres et le fait qu'à un moment m'a été posé la question de savoir si j'étais volontaire ou pas. Si on ne m'avait pas posé la question, peut-être que je ne me la serais pas posée moi-même. Mais je me retrouve dans cette situation dans laquelle j'avais été, j'étais à ce moment-là militant, engagé. Je suivais d'assez près ce qui se passait dans les Balkans. J'avais une opinion à l'époque sur ce qui se passait à Sarajevo. J'étais convaincu qu'il s'agissait d'une agression. J'étais convaincu que des mouvements... d'inspiration fasciste, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas il n'est pas très éloigné de ce qu'était la réalité à l'époque, enfin de la politique serbe et de ce qu'était Milosevic à l'époque, le dirigeant des Serbes, et Radovan Karadzic, qui étaient également des noms qu'on entendait beaucoup à l'époque, à la fois à la radio, à la télévision, et qui organisaient cette agression. Et donc je me retrouve à la fois à être intellectuellement convaincu qu'il faut intervenir et qu'il faut aller faire la guerre pour arrêter la guerre, et je me retrouve dans la situation dans laquelle on me demande si je suis volontaire ou pas pour le faire, pour y participer, et donc probablement dans le souci qui me colle beaucoup à la peau, mais qui est de m'assurer d'être cohérent entre ce que je peux dire ou penser et l'action, ce qu'on peut faire, je me retrouve à dire oui, et donc à m'engager.
Qu'est-ce que vous saviez des forces en présence du pays que vous alliez trouver avant de partir? Vous disiez que vous étiez très intéressé, vous suiviez ce qui se passait, vous aviez des convictions. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous compreniez de la situation? On est en 94, la guerre a commencé en 91, donc ça fait 3 ans que la guerre fait rage dans le pays.
Je crois que je savais relativement beaucoup de choses. Pas que j'en savais à l'époque... plus que d'autres, mais dans le monde dans lequel j'étais, à la fois un monde étudiant et un monde militant, ce qui se passait en ex-Yougoslavie, ce qui se passait à Sarajevo, était beaucoup discuté. Et donc, c'est des sujets qu'on abordait beaucoup. La presse parlait énormément de ce qui se passait dans les Balkans. Et donc, je crois que j'avais une assez bonne notion de ce qu'avait été la Yougoslavie, de ce qui s'était passé en 89, une assez bonne notion de ce qu'était à ce moment-là l'après-Tito. Et je crois une certaine connaissance et par ailleurs un certain nombre de références sur ce que signifiait pour les milices serbes, ce que signifiait pour moi ou pour l'Europe ou pour nous, le fait que des milices serbes encerclent une ville et organisent le siège de Sarajevo. Et puis suivait dans la presse ou ailleurs. Et donc, je pense que j'avais une notion assez précise de ce qui se passait. J'avais une notion très erronée de ce qu'il était en train de se passer sur le versant Nations Unies des choses et sur le fait que ce qu'on appelait à l'époque la FORPRONU, la Force de Protection des Nations Unies, et l'engagement international là-bas soit de nature à arrêter ce conflit et à mettre un terme, notamment au siège de Sarajevo, qui était très emblématique de cette guerre, après une guerre qui avait débuté en Croatie. Il y avait déjà eu Vukovar et le massacre à l'hôpital de Vukovar. Il y avait déjà eu un début de guerre dans les, et une guerre dans les Krajina, qui était donc la région sud de la Croatie. Il y avait déjà eu la dislocation de la Yougoslavie du côté notamment de la Slovénie. Et donc tout ça était, pour un étudiant de 25 ans que j'étais à l'époque, relativement bien perçu et bien connu.
L'étudiant passe soldat. Est-ce que l'armée confirme la vision des choses que vous aviez avant de partir ? Est-ce que l'armée vous a préparé à aller conduire un blindé et donc à savoir à qui vous avez affaire quand vous êtes sur place ?
Oui et non. Est-ce que l'armée m'a préparé à conduire un blindé ? La réponse est oui. Elle m'a même appris à conduire un blindé. Est-ce qu'elle m'avait préparé à comprendre ce qu'allait se passer sur place ? Non, et ça fait partie des éléments dont j'ai voulu témoigner après, qui était que la compréhension qu'avait le monde militaire, et donc au sein du monde militaire, la compréhension que pouvaient avoir les officiers, je les connaissais peu, mais en tout cas les sous-officiers qui étaient les plus proches de nous et les soldats, était une compréhension d'une immense naïveté sur ce qui se passait, une compréhension qui était dans une certaine mesure dépolitisée ou apolitique, c'est-à-dire que on évoquait le fait qu'il y avait des belligérants, mais on savait pas très bien la faute à qui agressait qui. Et dans une certaine mesure, on pouvait considérer, je parle bien du monde militaire, que c'était pas très grave. Il fallait séparer des belligérants. Et quand on cherche à séparer des belligérants dont on ne sait pas grand chose et dont on ne veut pas savoir ou dont on ignore ce que peuvent être les responsabilités des uns et des autres, on sépare plus personne. On se contente d'être des observateurs. Et ce qui m'a beaucoup marqué sur cette période et ce qui m'a amené à beaucoup réfléchir et témoigner après, c'est le fait que non seulement l'armée ne m'y a pas préparé, l'armée n'y était pas prête elle-même, elle en a d'ailleurs elle-même été très critique a posteriori, et c'est un peu une des dernières grandes missions de maintien de la paix, avec tous les guillemets qu'il faut mettre autour, parce que ça a été considéré a posteriori, à la fois par les analystes, par les journalistes, par les observateurs et par les historiens, comme ayant été plutôt un échec. Et la guerre ne s'est arrêtée dans les Balkans que quand la guerre a été faite à la guerre et non pas quand on a essayé d'organiser le maintien de la paix entre des armées ou entre des milices qui faisaient la guerre. Et donc voilà, est-ce que j'y ai été bien préparé ? Probablement pas, mais je crois que j'en avais un peu conscience. Et en tout cas, au retour, j'ai essayé de le dire et d'en témoigner.
Vous parlez de ce témoignage qu'on voit dans un film, un moyen métrage réalisé par Chris Marker. Quand vous êtes rentré en 1995, François Crémieux, un film qui s'appelle Casque bleu, un film qui est très très important, puisque d'abord, effectivement, c'est un témoignage, comme il y en a eu peu, où vous êtes face caméra, Chris Marker vous pose des questions, et qu'on n'entend même pas, puisque c'est sur des cartons, des bancs-titres, et vous répondez, vous témoignez sur un certain nombre de thématiques. Une des thématiques frappantes, me semble-t-il, par rapport à ce que vous nous avez dit dans la première émission, c'est-à-dire l'engagement qui était le vôtre et les convictions antiracistes qui étaient le vôtre, c'est le racisme envers notamment les musulmans bosniaques à qui vous avez eu affaire, le racisme de l'armée et le parti pris pro-serbe qui a été celui des chefs qui étaient les vôtres.
Oui, ça a été un des éléments. Et effectivement, c'était la rencontre entre... une armée paradoxale, c'était à la fois une compagnie dans laquelle il y avait, si ce n'est une majorité, mais peut-être pas loin, d'Antillais. Et donc, compliqué de se cantonner à dire que l'armée était raciste. Et pourtant, une armée qui était, notamment dans son, parmi les sous-officiers, très marquée par, probablement à la fois une certaine histoire militaire, en lien avec la décolonisation, l'Algérie. Mais également très marqué par un groupe social. Je parle de celui des sous-officiers qui effectivement étaient, pour certains d'entre eux, pas tous évidemment, mais pour quelques-uns d'entre eux, d'un racisme assez décomplexé. D'une part, et d'autre part, ce fait-là venait rencontrer une guerre en Bosnie qui se prêtait admirablement à cette question-là. Je le dis avec beaucoup d'ironie et beaucoup d'amertume, mais elle se prêtait admirablement à ça parce que une des lectures possibles totalement erroné, et pour le coup l'histoire a absolument tranché, mais totalement erroné, était d'imaginer que ce soit, ou d'analyser que ce soit une guerre, qui soit justement liée aux faits religieux. Et l'une des hypothèses fausses de l'époque, c'est que c'était une question de musulmans contre catholiques ou orthodoxes, et inversement, toute cette grille de lecture-là était une grille de lecture qui n'avait aucun sens, d'autres grilles de lecture complexes entre... la question de la chute du mur, de l'évolution des pays de l'Est, de la montée des nationalismes, de ce que ça voulait dire que d'être une fédération de ces pays ex-yougoslaves à l'intérieur de la Yougoslavie dans une Europe en devenir, la question du rapport de force entre le monde russe au sens large du terme et un monde plus occidental, rapport de force qui revient de manière très très forte aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. Mais il y avait de multiples grilles de lecture complexes et qui faisaient que c'était difficile de comprendre cette guerre. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'effectivement, un certain nombre d'acteurs au sein de l'armée, et pas que, ont été reprendre une autre grille de lecture, qui était la grille de lecture autour de la question de l'islam et des musulmans, qui, pour le coup, n'avait pas grand-chose à voir avec ce qui se passait en ex-Yougoslavie, témoignait d'une méconnaissance très grande de ce qu'était la pratique de l'islam, notamment en Bosnie. Et donc, j'ai effectivement témoigné retour du fait que ça avait probablement influencé une partie de l'armée. Alors, il n'y avait pas eu que ça. Il y avait aussi l'idée que les Serbes avaient été nos alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale et que donc il fallait se souvenir de cette histoire militaire-là et se souvenir que l'antifascisme était du côté des Serbes plus que du côté croate ou musulman. Lecture de l'histoire également extrêmement simpliste et pour partie fausse. Pas complètement, mais extrêmement simpliste en tout cas. Et donc il y avait comme ça des grilles de lecture qui étaient des grilles de lecture trop simples, caricaturales, et qui ont contribué à dénaturer la compréhension ou à biaiser la compréhension qu'a eu une partie de l'armée et du monde politique français de ce qui se passait en ex-Yougoslavie, et qui je crois explique que de la fin des années 80, 89, 90, 91, jusqu'à l'intervention pour mettre un terme au siège de Sarajevo en 95, il y a eu ces 5 longues années d'atermoiement et de difficultés pour la France, pour François Mitterrand, pour l'armée française, à la fois bien comprendre ce qui se passait, bien comprendre ce qu'étaient les enjeux avec l'Allemagne, avec l'intégration européenne, et pouvoir intervenir utilement. Et intervenir utilement, c'était quoi ? C'était faire la guerre à des milices qui étaient en train d'organiser le pire siège d'une grande ville européenne et qui, l'été 95, allait organiser le dernier des génocides avec 8000 hommes tués à Srebrenica. Et en fait, il aura fallu cette ampleur-là de massacre pour balayer ces fausses analyses et ces grilles d'analyse calquées sur une situation qui n'avait pas grand-chose à voir pour que... l'Europe en général, la France en particulier, l'armée française réagissent de manière différente. Et le paradoxe, c'est que c'est à la fois l'armée française qui a contribué à entretenir cette guerre trop longuement et qui par ailleurs y a mis fin avec la reprise d'une courte bataille fameuse, à la reprise du pont de Vrbanja, qui avec la création d'une force d'action rapide avait marqué dans le courant de l'année 95 le début de la fin de la guerre.
Mais quand vous y étiez, que vous étiez donc soldat, François Crémieux, avec les motivations qui étaient les vôtres, comment réagissiez-vous à non seulement ce que vous entendiez, justement, de l'armée, mais peut-être aussi de vos camarades de chambrée, je ne sais pas quelles étaient leurs motivations à eux, et puis à ce qu'on vous faisait faire ? Est-ce que, par conséquent, vous viviez très mal la contradiction entre ce pourquoi vous étiez venu, vous, et ce qu'on vous faisait faire ?
Non, je dois reconnaître que je ne l'ai pas vécu très mal. D'abord parce que pendant cette période militaire, je faisais d'abord ce qu'on me disait de faire, première caractéristique du soldat dans l'armée, mais d'autre part, on était pris dans une micro-histoire, c'est-à-dire qu'on était pris dans notre micro-histoire à nous, qui était de se lever le matin, et puis de partir avec le véhicule, le VAB, le véhicule de l'avant blindé, et partir au choix pendant 4 jours sur un poste d'observation pour observer, compter les tirs, et revenir 4 jours plus tard en disant il y a eu tant de tirs à telle heure, à tel jour, de tel type d'armes, etc. À d'autres moments, on prenait le véhicule et on partait escorter un convoi d'aide humanitaire ou que sais-je, et donc on est d'abord pris par ce quotidien de l'armée, et je le pensais à l'époque et je le pense plus encore, et je le pensais au retour et encore aujourd'hui. Et heureusement, je crois que le quotidien des militaires est d'abord fait de ce quotidien-là. Et voilà, je répète le mot 2 fois, mais on fait le job et on se lève le matin pour faire ce que l'on nous dit de faire. Et par contre, c'est au retour, et notamment j'insiste sur le massacre de Srebrenica, parce que être parti avec cette idée qu'il fallait, avec les casques bleus, mettre un terme à cette guerre, avoir eu l'impression de le faire un peu, parce que par ailleurs la vie n'est pas totalement à ce point caricatural. Et il y avait des jours où on sentait, je parle de ces jours où j'étais à Bihać et sous l'uniforme, où on pouvait avoir l'impression, l'illusion, je ne sais pas, mais que l'action militaire n'était pas totalement inutile. Et puis quelques mois après le retour, le massacre de Srebrenica sonne le glas de toute cette illusion-là, pour moi, mais je pense pour, à l'époque, une bonne partie de l'opinion publique, et où on se dit, en fait, on est complètement à côté de la plaque. Quoi. C'est-à-dire qu'on est en train d'observer les militaires hollandais, auxquels je m'associais assez facilement, parce qu'ils avaient le même âge, on avait les mêmes uniformes, les mêmes casques, etc., ont été les observateurs dans une autre poche de sécurité. Je l'évoquais, poche de sécurité de Bihać, mais la zone de sécurité de Srebrenica en était une autre. Et qu'ont-ils fait la même chose que ce que j'aurais pu moi me retrouver à faire si au lieu que ce soit l'armée française à Bihać et l'armée hollandaise à Srebrenica, ça avait été l'inverse. Ils ont observé le fait qu'en descendant de la montagne, les hommes sont montés dans un bus, les femmes sont montées dans un autre et les bus des hommes sont partis à un endroit où ils ont tous été massacrés. Et donc cette prise de conscience à l'été 95 de ce qu'était finalement l'intention de ceux que nous considérions comme étant des belligérants, de ceux que l'on observait, de ceux dont on comptait les tirs, leurs intentions profondes étaient celles que dénonçaient bon nombre d'intellectuels, de journalistes, etc., qui savaient ce qui se passait, leurs intentions étaient une intention génocidaire, confirmée ensuite, y compris par la justice pénale internationale. Donc voilà, sur le coup, on conduit le blindé et on essaye de faire passer les jours les uns après les autres, et puis au retour, on réfléchit. Dans un premier temps, on témoigne de manière... j'ai témoigné de manière un peu brute, au sens y compris du côté brut de la vidéo ou du film de Chris Marker, et puis après... on revient parfois sur ces moments-là avec plus de réflexion.
Vous témoignez dans ce film aussi de ce que vous avez vu de la guerre, des images qui vous sont restées, tout en disant que c'était peut-être moins le terrain de guerre qu'autour ce que vous avez vu. Mais vous vous souvenez de choses marquantes comme les missions cadavres, terme que, plutôt frappant que j'ai retenu.
En fait, sur ces moments de guerre, moi, j'ai toujours été étonné de voir à quel point ce qui était marquant dans la guerre n'était pas forcément l'idée qu'on pouvait avoir de l'importance de la guerre. Probablement parce que on est tous marqués par la représentation de la guerre au cinéma et que l'on a probablement comme idée que ce qui marque dans un moment de guerre, c'est ces scènes d'action, ces moments terribles, etc., que le cinéma met en scène. Moi, j'ai toujours été marqué par le fait que ce que l'on retient de la guerre quand on y est ou quand on y vit est très différent probablement de beaucoup des images qu'on peut avoir les uns et les autres. Et le cinéma en particulier nous renvoie des images de guerre qui sont à la fois justes, mais qui sont cinématographiques et donc parfois décalées de ce qu'est la réalité de la guerre dans son temps long. Les images qui me restent, y compris à la date d'aujourd'hui de cette guerre, c'est effectivement ce que je décrivais dans le film de Chris Marker comme étant les missions cadavres qui consistaient à aller sécuriser la ligne de front pendant une période où les Nations Unies avaient négocié un cessez-le-feu, quelques heures, c'était de 14h à 18h, temps pendant lequel les uns et les autres pouvaient venir ramasser les cadavres et donc on était en sécurisation de ces zones et puis ensuite en sécurisation de ces cortèges de camions dans lesquels on avait chargé les cadavres et qu'on ramenait, pour ce qui me concernait, puisque c'était là que j'étais, mais vers Bihać pour permettre aux familles de récupérer les corps. Ce souvenir-là, c'est un souvenir qui, de nouveau, a duré quelques heures. C'est-à-dire que la réalité de ce moment-là, c'est une réalité de quelques heures qui, encore aujourd'hui, est un moment qui me marque. Mais les rencontres régulières avec un garçon qui devait avoir une dizaine d'années, qui habitait à côté de l'un des postes d'observation sur lequel on allait régulièrement, et ce gamin qui venait très souvent et qui venait faire un... Voilà, on peut pas vraiment dire qu'on jouait ensemble. Nous, on était avec un pare-balles, un casque et un fusil, mais voilà, on échangeait, on plaisantait, on partageait parfois des bonbons qu'il pouvait y avoir dans les rations de combat. Et puis, un jour, parce que la guerre se rapproche, vous retournez pas sur le poste d'observation, parce que la mission suivante, on apprend que le poste d'observation a été démonté. Et donc, vous dites, le gamin, lui, y est toujours. Et donc, parmi les souvenirs de la guerre, c'est aussi des souvenirs de ces moments-là qui sont en fait pas des moments d'une très grande tragédie, en tout cas d'une très grande tragédie... scénique, je dirais, ou cinématographique, il se passe rien. Et puis il se passe tout, c'est-à-dire qu'il se passe ce que sont les enjeux de la guerre avec ces gamins qui continuent à vivre à côté des postes d'observation et qui, quand la guerre se rapproche, continuent le plus souvent à habiter la même maison. Et c'est des moments que j'ai retrouvés en d'autres lieux, plus tard, que ce soit au Kosovo ou ailleurs, cette contradiction entre l'intensité de la guerre, telle que parfois on la vit, et puis la réalité d'une guerre qui souvent s'étend sur des temps très longs, qui parfois emmène des enfants, non pas pendant quelques années, mais sur des générations entières.
Dans le film de Chris Marker, on sent votre colère, on sent votre désillusion. Alors je rappelle que ce film a été fait en 1995, vous venez de rentrer. Mais vous dites, on n'est pas prêt de m'y reprendre. Les missions de ce genre ne sont pas faites pour défendre les opprimés. On entend que vous étiez aussi parti avec l'idée que vous alliez protéger les populations, maintenir la paix, hein, en effet. Est-ce que vous diriez qu'à ce moment-là, en tout cas, quand vous rentrez, vous avez perdu votre naïveté?
Je ne crois pas l'avoir perdu à ce moment-là en particulier. Je ne sais pas si j'étais plus naïf avant qu'après, mais il y a aussi dans ces moments-là la force des symboles. La mission à laquelle je participais s'appelait donc Fort Pronu, Force de protection des Nations Unies. On intervenait dans des endroits qu'on appelait des zones de sécurité. On était armés avec un fameux casque bleu, on avait des bérets avec l'écusson des Nations Unies. Toute cette symbolique-là, je ne sais pas si elle parlait à tous les soldats, mais je pense qu'elle parlait à beaucoup d'entre eux. Elle parlait à beaucoup d'entre nous, quelle que soit notre culture ou notre compréhension de tout ça, elle parlait à beaucoup d'entre nous. Et donc, l'armée est bien au-delà de l'armée. Les Nations Unies étaient aussi un peu prises à leur piège. C'est-à-dire que d'avoir joué à ce point le symbole du drapeau et du casque bleu m'a fini par se retourner dans l'autre sens quand, presque sous bannière des Nations Unies, le mot est terrible, mais presque sous bannière des Nations Unies, ou en tout cas sous observation des Nations Unies, peut avoir lieu un génocide. Que le génocide et que le massacre de Srebrenica ait pu avoir lieu est une chose. Qu'il ait pu avoir lieu alors que des soldats qui portaient le même béret bleu et le même écusson des Nations Unies que moi, en soi les observateurs, était quelque chose, effectivement, de terrible. Alors, voilà, on m'y reprendra plus, on ne m'y a effectivement pas repris, ou en tout cas pas tout à fait dans les mêmes circonstances, et par ailleurs on n'y a plus repris grand monde, et je pense que l'actualité de la guerre en Ukraine nous a fait en tout cas basculer dans un monde totalement différent sur la question à la fois de la paix, de la question des nationalismes, et donc de la question de la guerre, et du fait que s'il y a une naïveté que je n'avais peut-être pas tant que ça, mais que j'ai en tout cas totalement perdue, c'est la naïveté que la paix soit une intention a priori de la part de quiconque. La paix peut être une intention dans le cadre d'une construction démocratique, culturelle, etc. Mais il y a aujourd'hui des intentions de guerre, et il y avait à l'époque, en Bosnie, des intentions de guerre, de séparation ethnique, de déplacement des populations et des intentions génocidaires.
Vous êtes resté 6 mois, François Crémieux, dans la poche de Biatch. Dans quelles conditions l'avez-vous quitté?
Le départ de la compagnie dans laquelle j'étais s'est fait de manière naturelle au mois de novembre 1994. C'était un bataillon d'infanterie qui avait des rotations régulières, et donc tous les 6 mois, il y avait une rotation. Et en l'occurrence, on a été remplacé pour l'hiver 1994-1995 par un bataillon de Bangladais, qui d'ailleurs renvoyait à d'autres enjeux autour de la question du lien avec l'autre en général, et en l'occurrence dans le rapport entre les armées et une armée française qui se considérait comme étant bien plus forte, armée, organisée, etc., que n'étaient les Bangladais quand on les a vus arriver, qui donc renvoyaient à d'autres, on évoquait tout à l'heure la question du racisme, et à d'autres enjeux de cette nature-là. Et donc on a été remplacé de manière assez naturelle par un bataillon de Bangladais, mais qui lui-même a, dans les mois qui suivent, dû quitter la poche de Biatch, puisque, en l'occurrence, La guerre a pris une autre tournure.
Mais après, votre service militaire n'était pas terminé? Il a fallu que vous continuiez quelque part?
Non, je suis rentré et quelques 2 mois de mémoire entre le retour de Bosnie et la démobilisation pour pouvoir quitter l'armée. Et probablement que j'ai eu la chance par rapport à d'autres soldats. On parlait beaucoup à l'époque, sans en prendre vraiment conscience, de la question du stress post-traumatique ou des enjeux post-traumatiques pour les soldats, qui étaient à l'époque tout juste évoqués et qui maintenant sont beaucoup mieux pris en charge. Et très clairement, la rencontre avec, par exemple, Chris Marker, mais plus globalement, la rencontre avec les amis de la revue Esprit, donc avec des engagements, des gens qui militaient, tout ça, moi, m'a beaucoup aidé à transformer une expérience probablement globalement très négative. L'expérience du soldat en Bosnie en 94, il faut vraiment être imaginatif pour y trouver quoi que ce soit de valeureux. Transformer cette expérience-là en un témoignage qui, lui, pouvait avoir une part d'utilité, m'a beaucoup aidé. Et puis ensuite, voilà, ça m'a amené à garder plus qu'un intérêt, un attachement à cette région, à ce qui s'y passait. Et puis, j'insiste sur le fait que 94, c'est le moment de mon retour. 95, c'est le massacre de Srebrenica. C'est la fin de l'année 95 que on a les accords de, qu'on appelle les accords de Dayton et les accords de Paris sur la fin de la guerre. La vraie levée du siège de Sarajevo et le retour à un début de paix, c'est la fin de l'année 95, courant 96. Et en fait, cette fin de guerre va être extrêmement longue.
À la fin du film de Chris Marker, François Crémieux, vous dites que des gens qui, comme lui, sont prêts à écouter quelqu'un parler de son expérience en ex-Yougoslavie pendant plus d'une heure, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que vous avez encore cette impression de ce moment-là, en tout cas, et de l'importance de votre témoignage?
Alors, je pourrais presque vous dire qu'il y aura eu lui et vous, ou lui et les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Mais effectivement, l'un des enjeux à ce moment-là, et c'est pour ça que je l'exprimais comme ça dans le film, c'est que l'un des enjeux pour les soldats qui reviennent de ces zones de conflit, c'est qu'effectivement, passer trois fois une demi-heure grand maximum, les amis, les conjoints, les enfants, les proches, etc., trouvent que tout a été dit et qu'il faut passer à autre chose. Or, ce sont effectivement des expériences, et c'est pour ça qu'entre-temps, les choses se sont un peu médicalisées, au sens où notamment les psychiatres militaires ont pris en compte la question de la manière de raconter le récit pour ceux qui partaient sur des zones de combat, et parfois dans des conditions infiniment plus terribles que ce que j'ai pu moi vivre, et de cette nécessité de recueillir le récit et le témoignage de ceux qui partaient. Et donc effectivement, à l'époque, ma phrase à Chris Marker, elle signifie deux choses, à la fois un propos personnel sur le fait que peu de gens étaient intéressés par écouter tout ça pendant très longtemps, ce qui signifiait aussi, et c'était le deuxième sens du propos, que finalement cette guerre en Bosnie, et je me resitue à l'époque de la fin de l'année 94, à la fois concernait tout le monde et intéressait pas tant que ça, c'est-à-dire qu'on était dans une situation paradoxale, et peut-être de nouveau qu'il y a des analogies avec la situation aujourd'hui et combien de personnes ont envie d'entendre parler de la guerre en Ukraine pendant plus d'une demi-heure, mais ce sont à la fois des guerres qui nous sont très proches, des situations dont on perçoit qu'elles sont extrêmement signifiantes pour ce qui s'y passe, pour ces pays, mais également pour nous. Et pourtant, notre capacité d'intérêt est quand même souvent assez limité. Et donc c'était probablement les deux sens du propos tenu devant la caméra de Chris.
De retour en France, vous faites un master en santé publique, puis vous intégrez l'école des hautes études en santé publique, mais vous repartez assez vite. Vous repartez une première fois à l'hôpital de Sarajevo en 1997, puis au Kosovo en 99 pour diriger l'hôpital de Mitrovica. C'est ce que nous verrons dans la prochaine émission. Merci et à demain.
Merci à vous et à demain.
C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Stéphane Foulon, réalisation Asia Khalid, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.